Vous écoutez France Culture. Sur les docks. Aujourd'hui, nous allons vous conduire au pays des entendeurs de voix, avant de partager demain des lettres de prison, puis filer grand train vers le Salon du Livre. À Armentières, l'histoire comme ailleurs bégaye. L'asile public d'aliénés a été bombardé pendant la guerre de 1914. Il est devenu hôpital psychiatrique pour être détruit en mai 1940. Aujourd'hui, c'est l'établissement public de santé mentale Lille Métropole, où Lucien Suel écrivait La patience de Morissette, et qui abrite colloques, rencontres, ateliers. Guillaume Baldi et Alexandre Breton s'y sont hasardés pour tout connaître des personnes qui entendent des voix. Des hallucinés, me direz-vous. Non, de simples écouteurs de voix qui fréquentent leurs hôtes intérieurs en toute lucidité, peuvent les congédier momentanément pour leur donner rendez-vous à un moment plus approprié. Pour vous, bons entendeurs, un sur les docks, ami des voix.
Good morning.
Bonjour.
Let's just start by having a...
On commence la journée par un petit débriefing sur hier, comment vous avez vécu la journée, comment vous êtes, quel sentiment vous avez eu en y repensant cette nuit.
À bon entendeur, vers une autogestion de la santé mentale, un documentaire d'Alexandre Breton et Guillaume Baldi. À l'initiative de l'établissement public de santé mentale de Lille Métropole, ont lieu des journées de formation à la gestion d'un phénomène particulier, l'entente des voix. Vivre et travailler avec les voix, c'est sous cette double perspective que des usagers de services de santé mentale, mais aussi des soignants ou travailleurs sociaux, assistent aux ateliers organisés par des formateurs issus de réseaux internationaux d'entraide aux entendeurs de voix, selon la terminologie utilisée. L'objectif est ni plus ni moins que de participer à la dépathologisation de ce phénomène et d'offrir en outre des outils permettant de vivre une vie satisfaisante avec cette particularité. Aujourd'hui, à Armentières, c'est une première en France, ces réseaux existant déjà de longue date en Angleterre, aux Pays-Bas, en Suisse, aux États-Unis ou au Canada depuis une vingtaine d'années. L'enjeu, c'est une véritable critique de l'approche psychiatrique traditionnelle, de l'écoute accordée à la souffrance des personnes qui entendent des voix. Et c'est cela que nous avons voulu capter lors de ces journées.
Non. Je lui ai demandé si sa voix pouvait me parler. Et sa voix accepte de me parler. Mais c'est lui qui devient la voix de sa voix.
Et Ron sait le faire. Est-ce que Ron l'a demandé de faire parler ma voix.
Il l'a plus ou moins refusé.
Hier, il a demandé de me faire parler ma voix. Je lui ai fait parler ma voix. Et moi, tout à l'heure, je lui ai demandé est-ce qu'on pourra se reparler. Et justement, il a dit « problème de jambes, j'ai mal aux jambes », et après il est parti. Et moi, quand il a été fumé une cigarette, j'ai demandé « toi aussi, tu sais faire parler ta voix ?» Il m'a répondu « oui ».
Et hier, j'ai demandé à la voix si elle acceptait de me parler. J'ai 4 pages. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai 4 pages de dialogue. Et ça m'a surpris, j'en ai eu la chair de poule à un moment. Je demandais « mais demande à ta voix pourquoi elle dit ça ?» Et à un moment, Stéphane m'a dit « mais c'est moi qui parle ». C'était donc vraiment la voix qui me disait « mais c'est moi ».
Mais alors, dans l'histoire d'Osiris et des personnages, est-ce que tu as réussi à créer un portrait poétique ? Parce que, par quel mécanisme ? Parce qu'on dit qu'il n'y a qu'une voix, enfin, les entendeurs de voix, ils sont uniques en eux-mêmes, parce que donc, il n'y a que eux qui créent ces voix-là. Et à partir de là, on ne peut pas rentrer dans la voix de l'autre comme ça. C'est pour ça que je posais la question de la communication. Est-ce que c'est par le fait que vous vous regardez dans les yeux ? Est-ce qu'il y a quelque chose de moteur par rapport à ça ?
En vérité, Jack, parce que Jack est ma voix positive qui m'aide depuis pas mal d'années. On y reviendra après. Jack, quand il aura fini de parler avec vous, il va me dire la conclusion sur vous. Il est en train d'écouter, là. Il écoute tout ce qu'on est en train de parler, mais il ne parle pas. Parce qu'il m'a dit, là, je ne connaissais pas tes deux voix premières. Il est arrivé après. Donc, il ne me les connaît pas. C'est moi qui ai fait les recherches moi-même. Jack ne m'a pas aidé. Je ne le connaissais pas encore.
Mais Jack a dit ce matin dans la voiture. Jack a dit, on va faire en sorte de mettre Ron en difficulté. Et hier, on
était... effectivement, rien ne rentre dans les schémas de tableau.
Pour moi, hein, je dirais, j'ai fait un tableau comme ça. Je suis partie de l'idée du médiateur. Donc le médiateur, pour le moment, c'est le point d'interrogation. Mmh. On pourrait dire que c'est Stéphane. Il y a un émetteur, il y a un récepteur, il y a un transcripteur, il y a un diffuseur. Voilà. Il y a un écouteur et puis un entendeur. Là, je me suis trompée, c'est entendeur. Parce que s'il y a un entendeur, il y a un écouteur, à mon avis. Et c'est toute l'idée de trouver qui transmet, qui émet, qui diffuse.
I didn't set out to become a trainer when I was young. I actually wanted to be a priest. And I guess
Ron Coleman.
My journey started as a young
Son but n'était pas son but dans la vie n'était pas de devenir formateur, mais de devenir prêtre. Et simplement, quand il a été jeune enfant, il a été abusé sexuellement par un prêtre catholique. Et ça, ça a été le point de départ de son trajet vers la maladie mentale.
And the only thing that I had that was consistent in my life was playing rugby. That was the only consistent I had.
La seule chose un peu stable que j'avais dans ma vie, c'était le rugby, parce que j'ai toujours joué au rugby. Et un jour, j'ai eu un accident en jouant, et je suis allé à l'hôpital, et le médecin m'a dit que je ne jouerais plus jamais au rugby.
And 6 weeks after I came out of hospital, I had my first voice. And I was in my office, and I heard a voice behind me. It was a woman's voice say, You have done that wrong.
6 semaines après ma sortie de l'hôpital, c'est à ce moment-là que j'ai eu ma première voix. J'étais au bureau et j'ai entendu une voix de femme qui m'a dit « Tu as fait ça complètement de travers ». Alors j'ai commencé à regarder autour de moi pour voir, il n'y avait personne. Et ça m'a beaucoup stressé et je suis allé au pub pour me saouler.
I thought I would be okay the next day, but that didn't happen. And over a period of weeks, the voice
je pensais que dès le lendemain, ce serait fini, que je serais de nouveau bien. Ça ne s'est pas produit. Et après plusieurs semaines, ça a été deux voix, puis trois voix, et jusqu'à six voix qui sont apparues, qui criaient, qui hurlaient, et je ne pouvais plus du tout m'en sortir.
And that's when I discovered the power of psychiatry. I was not allowed to leave hospital. And the 10 days became 10 weeks, and then it was 10 months. And then 10 years later, I was still in a psychiatric hospital, a different hospital.
C'est à cet instant-là que j'ai découvert le pouvoir psychiatrique, parce que je n'étais tout simplement pas autorisé à quitter l'hôpital. Et les 10 jours se sont transformés en 10 semaines, puis en 10 mois. Et finalement, en 10 ans, sachant que j'ai passé 6 ans et demi à l'intérieur de l'hôpital et 3 ans et demi dans la communauté en tant que patient psychiatrique, et après ces 10 ans, les voix disaient toujours exactement la même chose.
And in Manchester, I met a new worker called Lindsay. And she was different.
Et à Manchester, j'ai rencontré une nouvelle professionnelle qui s'appelait Lindsay et qui a toujours cru dans ma capacité à me rétablir.
Then one day she came in and she said, "There is a new group starting in Manchester called the Hearing Voices Group. Would you like to go?"
Et un jour, elle m'a dit qu'il y avait un nouveau groupe qui avait débuté à Manchester. Un groupe d'entendeurs de voix. Donc je lui ai demandé ce que c'était. Elle m'a expliqué que c'était des personnes, d'après ce qu'elle avait compris, qui se retrouvaient, qui s'asseyaient en cercle et qui échangeaient sur leur expérience. Et donc là, j'ai assisté à mon premier groupe d'entendeurs de voix. Et Anne Walton m'a demandé, est-ce que tu entends des voix? J'ai répondu oui. Et elle m'a dit, elles sont réelles. Et ça, c'est une phrase qui m'a marqué pour le restant de mes jours.
But for the first time in many years, there was something I could do. I'd been waiting for psychiatry to.
Et pour la première fois depuis des années, je pouvais enfin moi-même agir. J'avais passé des années en psychiatrie sans que rien ne se passe. Et là, j'avais enfin cette opportunité.
And over the next 12 months, I went to the group all the time. I spent a lot of time listening, trying out some of the ideas, things like...
Et pendant les 12 mois suivants, je me suis rendu très régulièrement au groupe et j'ai commencé à réfléchir à certaines idées qui étaient proposées dans ce contexte, notamment l'idée de négocier le temps que j'allais passer avec les voix, le temps que je garderais pour moi et le temps que je leur consacrerais. Ça n'a pas été du tout facile, ça a été au contraire un travail très dur, mais au bout de ces 12 mois, je commençais à récupérer un certain contrôle sur ma vie.
The funniest thing, though, was professionals' responses to the recovery. It was almost like they couldn't handle it. They almost went into denial. You know, they started.
Le plus surprenant pour moi, ça a été la réaction des professionnels au rétablissement. C'est comme s'ils n'arrivaient pas, ils ne savaient pas comment l'appréhender. Et il y a eu pratiquement des réactions de déni, du genre « Ron Coleman n'est pas un schizophrène normal ». Ron Coleman n'a jamais été vraiment schizophrène. Certains sont arrivés à dire que j'avais passé 10 ans en psychiatrie parce que je voulais des vacances. C'était comme s'il était impossible de penser ce rétablissement.
The real paradox for me is that psychiatry sits within a health system, but it doesn't believe in health. It only believes in illness. If you're ill, it's almost
like. Et le vrai paradoxe dans cette histoire pour moi, c'est que alors que la psychiatrie se situe dans le système de santé, en réalité, elle ne croit pas à la santé, elle ne croit qu'à la maladie. Lorsqu'on est malade, on est accepté dans le domaine de la psychiatrie, alors que lorsqu'on est rétabli, on n'est pas cru.
There becomes almost a codependent relationship, I think, in psychiatry. Where if you tell someone often enough that they cannot get better, then they will not get better. And psychiatry reinforces this idea of illness with you all the time. So they will say, you will never have a proper life.
En fait, c'est une relation de codépendance qui s'instaure entre le psychiatre et son patient. Et quand effectivement on commence à dire aux personnes « mais vous ne pourrez pas aller mieux », effectivement, elles n'iront jamais mieux. De la même façon, quand on leur dit « mais vous n'aurez jamais une vie normale, vous ne pourrez pas vous marier, avoir des enfants », en fait, ça produit tout simplement une exclusion de la société dans laquelle les personnes vivent. Et
le nombre de personnes que nous rencontrons qui font exactement ce que j'ai fait, qui disent Hello, my name is Ron and I am a schizophrenic. Not my name is Ron and I like football, but I am a schizophrenic.
And en fait, on commence toujours à y croire quand on est, en tant qu'usager, on finit toujours par croire à ce discours-là, à l'intégrer nous-mêmes. Et les personnes qu'on a vues aujourd'hui, par exemple, elles font comme moi j'ai fait, elles finissent par se décrire comme schizophrène en disant « je suis schizophrène ». Et un tel usage du langage... ça fait que schizophrène devient un nom, ce n'est plus descriptif, c'est ce que je suis à proprement parler. Et ça, c'est quelque chose de très triste, et la psychiatrie produit ça.
And the normal response from psychiatry to the kind of things we say is that we are anti-psychiatry, that we are anti-medication.
Et la réaction de la psychiatrie à ce que nous sommes en train de dire, c'est de nous accuser en fait d'anti-psychiatrie. C'est ce que j'appelle la dernière défense, parce que nous ne sommes pas anti-psychiatrie, nous sommes anti-mauvaise psychiatrie, nous ne sommes pas anti-médicaments, nous sommes anti-mauvais usage des médicaments. Et quand un domaine de scientifique ne supporte pas la critique, alors ce n'est plus une science, c'est une nouvelle religion.
Massimo Marsili, merci d'accepter cet entretien. Vous êtes ici donc, dans ces journées de formation, travailler avec les voix. Qu'est-ce que vous recueillez un petit peu comme expérience ou comme impression au terme de cette deuxième journée?
Oui. Bon, donc, je crois que cette expérience, c'est une expérience vraiment qui va un petit peu à bouleverser les acquis des soignants sur le fait que les voix sont des choses intouchables et qui restent quelque chose sur lequel on ne peut pas travailler. Je suis convaincu que ceci, c'est un petit peu le préjugé typique soit des soignants, soit des soignés, malheureusement. Et donc, cet événement va modifier, bouleverser heureusement cet acquis, cette convention. Convaincu, oui.
On porte attention à ce phénomène de l'entente des voix. D'ailleurs, c'est important cette question du lexique. On ne parle pas d'hallucination auditive, oui. Mais d'entente des voix. N'est-ce pas toujours un élément associé à d'autres signes? Est-ce qu'on peut, pourquoi comme ça prélever ou distinguer, différencier comme ça, ou autonomiser un symptôme du tableau dans lequel il s'inscrit? Ça peut être un tableau mélancolique ou schizophrénique. Qu'est-ce qui justifie ça?
Oui. Alors, avant tout, il faut dire, c'est une chose qui remarque toujours en Coleman, c'est que c'est pas la totalité des personnes qui entendent des voix qui ont un diagnostic psychiatrique. Donc il y a 30-40% des personnes qui entendent les voix. Sur 100 personnes, il y a 60-70% qui ont un diagnostic psychiatrique et un tiers qui ont appris à tolérer ces phénomènes, à convivre avec ces phénomènes et qui parfois vivent une vie assez normale, sauf qu'ils sont en état d'entendre les voix. Donc ça, c'est important à anticiper. Deuxièmement, je pense que là où il y a un diagnostic psychiatrique, le phénomène des voix, en effet, c'est un événement qui touche fortement l'émotion du sujet. Donc, est si frappant ce que j'ai entendu de mes patients, en fait, qu'ils m'ont appris beaucoup sur ça. Tout ce que je sais, c'est grâce à mes patients. C'est touche si fortement que c'est un événement qui ne peut pas être... C'est très difficile de faire semblant qu'il n'existe pas. Donc, qui va être présent dans la quotidiennité. Donc, c'est un événement sur lequel, si on est capable de produire des résultats positifs, on est aussi capable d'améliorer la qualité de la vie quotidienne des sujets. Donc, le sujet même est plus capable de se débrouiller dans la vie quotidienne sans être touché, frappé par un événement qui n'est pas qu'auditif, c'est surtout émotif. Donc le côté de lui, c'est une partie, mais c'est que les messages qui arrivent touchent tout directement l'émotion du sujet, le sentiment du sujet, parce que c'est toujours un message qui va toucher les points faibles du sujet, les talons d'Achille. Et là, et si on fait quelque chose pour ça, on donne au sujet, aux personnes, la capacité de vivre mieux. Ça, je suis convaincu.
Eleanor Longden.
Dans un premier temps, nous allons réaliser un profilage des voix. Nous voulons connaître les voix. Et en fait, à la base, on va procéder exactement de la même façon que si on voulait apprendre à connaître quelqu'un. De quel genre est-elle? Est-ce qu'elle est féminine ou masculine? Quel âge a-t-elle? Est-ce qu'elle a un nom éventuellement? Alors la deuxième dimension, c'est les caractéristiques elles-mêmes du discours des voix. Que disent exactement les voix? Et est-ce que ces voix vous rappellent éventuellement quelqu'un que vous avez connu dans le passé, que ce soit par le ton qu'elle adopte ou par ce qu'elle dit? Donc, dans une troisième étape, nous allons nous intéresser à ce qui provoque la voix, ce qui provoque son apparition. Il y a trois émotions très particulières auxquelles les voix sont régulièrement associées. C'est d'abord la colère, la culpabilité et la honte. Et les troisièmes, c'est les sentiments sexuels. Et souvent, pour de nombreux entendeurs de voix, les voix, justement, viennent prendre la place de ces émotions. Au lieu de ressentir ces émotions, les voix vont venir les exprimer. La quatrième dimension que nous allons étudier est pour elle et pour moi très importante. Et il s'agit de l'histoire des voix. Quel était le contexte personnel, social de la personne quand les voix sont apparues pour la première fois ? Est-ce que les voix ont gardé le même âge depuis le début ou est-ce qu'elles ont vieilli en même temps que la personne qui les entend ? Et finalement, donc la cinquième question, c'est à propos de l'entendeur de voix lui-même. Quels ont été les événements significatifs dans la vie de l'entendeur de voix ? Donc, une fois que nous aurons exploré ces cinq dimensions de l'expérience, il y a deux questions essentielles, deux questions clés auxquelles nous allons chercher à répondre. La première de ces questions, c'est qui ou quoi, qu'est-ce que les voix représentent ? Il arrive par exemple que des personnes qui entendent des voix sachent qu'une voix représente exactement la personne qui a abusé d'eux lorsqu'ils étaient enfants. Et la voix peut aussi se présenter de manière métaphorique, c'est-à-dire qu'elle va avoir un contenu très négatif, culpabilisante ou des sentiments de honte associés à elle. Et ça, ce sera donc une présentation plus métaphorique, une représentation métaphorique à travers la voix. Donc la deuxième question à laquelle nous allons chercher à répondre, c'est quel problème les voix représentent-elles ? Et en général, ce sera des événements ou un contexte, des circonstances dans la vie de l'entendeur de voix qui étaient complètement trop submergents pour être assimilés. Et on peut observer que c'est précisément quand ce type de submersion se produit que les voix débutent. Quand quelque chose de terrible nous arrive, il est très difficile pour notre esprit en fait, de gérer les informations qui se présentent à ce moment-là. Des recherches menées par différentes personnes, des psychologues, des psychiatres et également donc Eleanor Dirk Ron, ont montré que les voix elles-mêmes sont une manifestation du mécanisme que le cerveau met en place pour essayer de gérer ces informations auxquelles il n'arrive pas à se confronter autrement, et que ça fait partie en fait d'un système pour faire face à l'expérience.
Just as when we cut ourselves, the skin tries to heal.
De la même façon que lorsqu'on se coupe, la peau va cicatriser, de la même façon on peut concevoir les voix comme une manifestation, une recherche du cerveau, de notre esprit, à essayer de se soigner lui-même, pour essayer de récupérer, en fait, de se récupérer par rapport à cette masse d'informations qu'il n'a pas pu gérer au moment du traumatisme.
So in this way, we can deconstruct a symptom.
À partir de là, on peut déconstruire ce qui est considéré comme un symptôme, comme une piste, des indices vers les problèmes qui sont à l'origine de ce symptôme. Et la bonne nouvelle, c'est que ces problèmes sont solubles. Donc il y a quatre objectifs principaux qu'on se fixe au départ de ce travail. Le premier d'entre eux, c'est de permettre à la personne qui entend des voix d'acquérir un meilleur contrôle. Le deuxième objectif consiste à permettre à la personne qui entend des voix de récupérer, de s'approprier en fait cette expérience. Alors le troisième objectif consiste à permettre à l'entendeur de voix de récupérer le sentiment même de soi. Et ça consiste aussi à rétablir une estime de soi suffisante et une raison d'être. Et enfin, le quatrième objectif de cette approche, c'est de construire une relation positive avec les voix. Aujourd'hui, les voix font partie intégrante de ma vie et je ne voudrais certainement pas m'en débarrasser. Au moment où j'étais adolescente, ce changement de perspective était totalement impensable pour moi. Mais j'ai découvert qu'en négociant véritablement ma relation avec les voix, je pouvais leur donner une place vraiment significative dans ma vie.
Alors, quelle question vous posez? qu'est-ce que tu ressens quand elle est à côté de toi, Priscilla, ta voix?
Une chaleur.
Sur la poitrine ou au cœur?
Sur la poitrine, juste là.
Oui. Et est-ce qu'elle te demande de faire des choses? Bon, par exemple, tout à l'heure, tu disais qu'elle voulait avoir le permis.
La conduite, le permis, ouais, le code.
Donc elle te demande pour elle des choses pour elle, c'est ça?
Ouais.
Et est-ce qu'elle te demande de faire toi des choses?
Aussi, oui.
Aussi, par exemple, qu'est-ce qu'elle te demande?
Maman, fous-moi des pâtes. Maman, je peux aller là. Maman, écoute, Priscilla, tu te débrouilles tout seul.
Voilà, bon, c'est comme ça que tu lui réponds, c'est bien. Mais c'est elle qui t'a conseillé de faire du sport quand même.
Oui.
Comment elle te l'a demandé? Comment elle te l'a conseillé?
Moi, t'aimerais pas faire un peu de sport? On va courir à deux, on va aller à la piscine. J'aime bien aller à la piscine.
Oui.
Bon, on va aller à la piscine, allez, viens. Ouais, mais attends, non, allez, viens, puis on s'en va.
Et tu la suis alors là?
Ouais, je la suis, ouais, c'est moi qui la suis là.
Tu la suis carrément, d'accord.
Ah ouais, c'est. C'est un amour ça.
Oui.
C'est un enfant de l'amour.
Oui. Moi, je me demande vraiment comment tu sais qu'elle allait venir. Ça, je voudrais bien le savoir.
J'ai le cœur qui bat à 100, il bat très fort.
Ouais.
J'ai comme un genre de chaleur qui me fait le tour de moi.
Ouais.
Je vois des étoiles.
Est-ce que tu sens quelque chose avec le nez quand elle est là, à côté de toi, ou c'est seulement la chaleur et...
Attends,
tu sens son odeur?
Ouais, je sens très bien.
Ouais.
Mais du parfum pour la reconnaître. Et chez quelle?
Quel genre de parfum?
Cléa de Yves Rocher.
Ah, tu connais ce parfum là?
Oui.
Et donc tu le sens. Quand elle arrive, tu sens ce parfum là aussi.
C'est moi qui lui payais. Moi je me suis dit, si j'achète ce parfum là, comme ça moi je peux la sentir.
Ouais.
C'est mon truc à moi.
Ouais, c'est une bonne idée. Et alors quand tu manges, est-ce qu'elle est avec toi, Priscilla, là, ta première voix? Elle est avec toi pour manger?
Non.
Non? Jamais?
Ah, jamais, pour
jamais,
manger.
Jamais.
Jamais.
D'accord.
Elle vient quand, cette fois? À quel moment?
Il n'y a pas de moment.
Il n'y a pas de moment?
Non, il n'y a même pas d'heure.
Et est-ce que tu l'entends marcher ou...
Marcher, non,
tu ne l'entends pas marcher.
Non.
Mais tu entends sa voix quand elle te parle.
Oui.
Est-ce que tu entends si c'est une voix
jeune?
Oui, par exemple, jeune, fluette, une voix grave, est-ce que ça tu entends?
Masculin, c'est une grosse voix.
Oui.
Féminin, c'est doux.
C'est doux. Donc elle a une voix douce, même si elle est agressive. Hein?
Oui.
D'accord. Donc c'est une voix vraiment féminine.
Féminine.
Oui, féminine, d'accord. C'est vraiment Priscilla. Hein?
Oui,
d'accord.
Je vais utiliser maintenant deux études de cas pour essayer de rendre plus clair l'approche que je vous propose.
The first person I'm going to talk about is a woman called Maria.
Le premier cas que je vais prendre pour illustrer l'approche, c'est le cas de Maria, qui a 30 ans et qui entend trois voix.
The first voice, so identity, which was what we asked her about first.
Alors, la première voix, donc en ce qui concerne son identité, puisque c'est la première dimension qu'on explore, elle s'appelait Irma, c'était une voix féminine et elle avait 7 ans. La seconde voix s'appelait Anna, c'était également une voix féminine et elle avait 19 ans. Et la troisième voix s'appelait Johanna, c'était également une voix féminine et elle avait 30 ans. Alors quelles sont maintenant, donc, dans la deuxième étape, les caractéristiques de ces voix?
Irma used to cry a lot.
Irma, par exemple, criait beaucoup, pleurait beaucoup, criait, et elle le faisait d'autant plus que Maria essayait de l'ignorer, notamment en écoutant de la musique, par exemple. La seconde voix, Anna, était très, très agressive, hostile envers Maria.
And the third voice, Joanna, was very positive. She would comfort Maria.
Joanna, au contraire, la troisième voix, était très positive et elle se dressait pour défendre Maria, pour la soutenir.
Now look back at the ages of the three voices.
Nous allons maintenant regarder l'histoire des voix, donc Irma, Anna et Joanna.
How old do you think Maria was?
Donc, à votre avis, quel âge avait Maria quand elle a entendu pour la première fois Irma? Elle avait 7 ans, effectivement.
So immediately, when she said that this voice was 7 years.
Effectivement, donc quand elle nous a dit que la voix était apparue à 7 ans, nous avons posé la question à Maria: qu'est-ce qui t'est arrivé quand tu avais 7 ans? Et il est apparu que Maria avait été abusée sexuellement par son oncle à partir de l'âge de 7 ans.
Now Anna, in turn, appeared when Maria was.
De la même façon, Anna, la voix qui avait 19 ans, est également apparue quand Maria avait 19 ans.
And when Maria was 19,
quand Maria avait 19 ans, elle a essayé de faire poursuivre son oncle, d'avoir son oncle condamné.
And finally, the voice of Joanna.
Et enfin, la troisième voix, Joanna, est apparue, elle, quand Maria a commencé à sa thérapie.
And she very much embodied the content.
Et elle a très directement incarné en fait le contenu même de la thérapie en aidant Maria à faire face aux autres voix.
So what triggers these three voices? Irma was triggered when.
Alors qu'est-ce qui déclenchait les voix? Donc pour Irma, c'était lorsque Maria se rendait chez ses parents. Le fait qu'elle se retrouve en famille déclenchait ses voix, et aussi lorsqu'elle se trouvait en présence d'hommes. Irma avait extrêmement peur de la sexualité de Maria.
Anna,
la deuxième voix, était également déclenchée par les visites de Maria à sa famille et aussi par ses contacts avec des hommes. Mais une autre circonstance dans laquelle Anna a été déclenchée, c'est lorsque Maria devait s'affirmer, se défendre elle-même. Et dans cette circonstance précise, Anna commençait à dire à Maria que c'était vraiment une ratée, qu'elle elle n'était pas assez courageuse, qu'elle ne se battait pas pour elle-même.
And the main triggers for the third voice, Joanna, was the other two voices. So when they became.
Et Joanna, la troisième voix, elle était déclenchée en fait par les deux autres voix, et notamment par Anna lorsque celle-ci devenait très agressive. Et à ce moment-là, Joanna allait lui donner des conseils pour faire face aux autres voix.
We can see that Irma and Anna don't represent real people.
À ce moment-là, on peut voir que Irma et Anna ne représentent pas des personnes réelles, mais plutôt des émotions qui sont liées à l'abus que Maria a subi.
And the third voice, Joanna.
Et Joanna, la troisième voix, représente, elle, les tentatives de Maria pour s'aider elle-même.
So Maria's recovery plan.
Donc le programme de rétablissement pour Maria, qui comprend donc les trois aspects dont nous avons parlé tout à l'heure, à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, c'est faire face aux voix. Et pour Maria, en fait, le processus a consisté à partager son temps, à répartir son temps. Et cela consiste très concrètement à prévoir des temps à passer avec les voix, pratiquement à prendre rendez-vous avec elles.
And this is something that many voice hearers find very helpful.
C'est une technique que de nombreux entendeurs de voix trouvent extrêmement utile. Et vous pouvez par exemple dire à vos voix que vous prendrez le temps de leur parler entre 6h et 6h30 dans l'après-midi, mais à aucun autre moment dans la journée. La deuxième partie du programme de rétablissement de Maria à moyen terme a consisté, comme nous l'avons dit tout à l'heure, à gérer ses émotions difficiles. En passant du temps à véritablement prendre en compte ce que disaient les voix, Maria a pu les utiliser comme des indices, comme des indications vers les problèmes auxquels elle devait se confronter. Et les voix qui ont commencé par se présenter comme un problème se sont révélées être une part de la solution à long terme. Et justement, à long terme, pour Maria, le programme de rétablissement a consisté à apprendre à parler de cet abus et des sentiments qui étaient associés, la colère, la culpabilité, la honte. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que c'est clair jusqu'ici pour vous ? Est-ce qu'il y avait des... Oui.
Je courais dans le champ. À travers le champ dans les épis de maïs. Je me suis retrouvé perdu au plein milieu du champ. Et c'est là que Joshua m'a contacté pour la première fois.
Sous quelle forme ?
Lui, une sphère lumineuse, pareil. C'est sa première forme en fait. Une sphère lumineuse avec son bras et trois doigts. L'index, le pouce, l'index et l'annulaire.
Alors, tu avais seulement 13-14 ans et quel effet ça t'a fait ?
Disons que moi, quand je l'ai vu pour la première fois, c'était impressionnant, quoi. Et il était serein, si on peut dire ça, serein d'un esprit, quoi. Et très, très conciliant aussi. La complicité, elle était fulgurante dès le départ, quoi.
Mais pour toi, ce Joshua, il est très aidant. Il participe à tes concerts, mais est-ce qu'il t'aide ou est-ce qu'il te... rend d'autres services.
Ben lui, comme c'est un intrépide,
oui.
il peut aller voir dans d'autres mondes, dans l'entre-deux mondes et dans d'autres mondes. Donc il peut expliquer aussi comment sont les esprits d'une personne qui est hantée par eux ou des choses comme ça. Il est très protecteur aussi dans les sphères célestes, quoi.
Tu veux dire que quand toi tu veux aider des gens, des esprits, ils t'aident à aider ces autres esprits parce qu'il en sait un peu plus que toi.
Il en sait un peu plus que moi dans l'au-delà. Ouais.
Toi, voilà. Tu peux pas aller dans les autres mondes.
Moi, j'y suis arrivé. J'ai fait plusieurs décorporations dans ma vie, donc j'y suis arrivé. Mais lui, il y est constamment, quoi, dedans. Et cette fois où il apparaît sur Terre, c'est pour venir m'aider, moi ou mes proches, quoi. D'une façon directe ou indirecte.
Tu décris les deux situations, hein, la rencontre avec Nadine et la rencontre avec Joshua. Tu étais avec quelqu'un qui était un peu comme ton père, parce que c'était ton parrain, le premier.
Ouais.
Et tu étais à côté, mais tu étais dans le jardin ou dans le champ, enfin, pas loin, mais pas avec.
Mon ange gardien, c'est mon grand-père, en fait.
Ah
et
bon ?
il m'a aidé à comprendre tout ça et à vivre avec. Parce que au début, c'était pas évident. Et c'était très... c'était tout d'un coup, quoi. Après, à force de faire des alliés avec les esprits, on a faire cette sorte d'alliance, on a complètement renversé les rôles et renversé la situation, quoi. Parce qu'elle était très épouvrante au début.
Laquelle situation ? De quoi tu
parles ? En fait, que je suis hypersensible et c'est cette hypersensibilité qui me permet de parler aux esprits, quoi.
Avant, c'était plutôt un problème, ton hypersensibilité, c'est ça ?
Ben, c'était perçu par la famille comme étant un problème. D'accord. Pour moi, ça ne l'était pas. Moi, j'étais dans mon monde. Mmh. Mais pour ma famille, c'était plus perçu par un problème. Et plus tard, quand j'étais hospitalisé, la seule chose qu'ils pensaient, c'est quand je faisais mes délires, qu'ils soient bons ou mauvais, est-ce que tu as bien pris ton traitement ? C'est ce que disaient aussi les soignants. Donc, Et moi, ça se résumait pas à ça. Mmh. voilà, c'était un peu conflictuel.
Quand tu prenais tes traitements, tu perdais le contact avec les gens qui te protégeaient.
Ouais, je leur disais, dans trois quarts d'heure, je vous vois plus et je vous entends plus, quoi.
Je voulais juste prendre, avant qu'on recommence la séance, je voulais prendre deux minutes pour vous présenter un des rares livres en français sur l'expérience d'entente de voix, qui en fait a été édité par le réseau d'entraide des entendeurs de voix suisse.
Alors pour moi, là, c'est vraiment tout le challenge, c'est-à-dire que
Patrick le Cardinal.
Ce qu'on appelle le savoir expérientiel, actuellement en France, c'est... pas du tout reconnu, c'est-à-dire au niveau universitaire, il n'y a pas de formation en savoir expérientiel, il n'y a pas d'université pour ça, il n'y a pas de reconnaissance. Tout ce qui se fait, c'est au niveau bénévole. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, par exemple, des groupes comme les Alcooliques Anonymes ont des résultats sur le maintien de l'abstinence. Ça a été prouvé par de nombreuses études, qu'aucun service de professionnel n'arrive à avoir. Parce qu'on est toujours dans des systèmes de rechute, etc. Alors vous direz, ça nous fait vivre de voir revenir les gens, etc. Mais il n'y a pas cette reconnaissance en termes de reconnaissance sur la validité de l'approche. Et là, à mon avis, ce type d'expertise pose vraiment la question de la reconnaissance et de la professionnalisation du savoir expérientiel, c'est-à-dire quelle validité on va donner à ça et quelle reconnaissance aussi en termes de salaire, puisque tout travail mérite salaire, là-dessus tout le monde est d'accord. Maintenant, est-ce qu'on met ça dans un champ associatif bénévole ou est-ce qu'on inclut ça dans un champ professionnel? C'est une question que ça nous pose.
Mais que reste-t-il de la psychiatrie dès lors? Comment elle peut être pensée, du coup, l'approche psychiatrique?
Alors, pour moi, l'approche psychiatrique, elle doit être complètement repensée. C'est-à-dire que la psychiatrie n'a pas un rôle de contrôle social, comme veulent nous le faire croire beaucoup de médias, en agitant des drapeaux rouges dès qu'il se passe quelque chose avec quelqu'un qui a un diagnostic de schizophrénie. Notre but à nous, c'est d'aller sur la place publique et de dire « qu'est-ce qu'il y a pour votre service ?» Ça, c'est Bonafé qui dit ça. Comment on peut être utile? Et comment on peut être utile aux personnes en tant que service public de psychiatrie? Eh ben, c'est d'abord pouvoir répondre à un besoin. C'est pas d'abord avoir une offre de soins, c'est d'abord répondre à un besoin. Et le besoin spécifique, eh ben, pour savoir quel est le besoin, il faut d'abord écouter les gens. Et pour ça, il faut commencer par le savoir expérientiel, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous a aidé? Comment vous avez réussi à vous en sortir, partir des gens qui ont réussi à s'en sortir, à se réintégrer? Or, ces personnes-là, les formateurs ici, ce ne sont pas des gens qu'on a l'habitude de côtoyer en psychiatrie. On voit beaucoup de personnes qui sont formatées par la psychiatrie, qui sont dans un modèle de non-rétablissement, où ils sont stabilisés par des traitements, ils sont dans des circuits psychiatrisés, où moi je me souviens d'un patient qui me disait ben, « moi je suis qu'un malade parce que je vois mon pharmacien, mon psychiatre, mon infirmière et je prends mes médicaments. Et c'est tout. Donc ma vie s'arrête à une vie de malade. » C'est-à-dire qu'on va nier toute une partie de la vie des gens et ce qui les empêche finalement de vivre dans la société comme tout un chacun. Et donc, on n'est plus dans notre rôle à ce moment-là. Et ça pose vraiment question.
Est-ce que vous pouvez vous rapprocher un petit peu, resserrer le cercle?
Ok, how do people get on with that exercise?
Comment ça s'est passé cet exercice?
She worked with Mohamed.
C'est un voyage pour tous les deux.
It's a journey for both of them.
C'est ensemble.
Together.
Et en fait, on venait de descendre. C'est arrivé à autre chose de plus douloureux.
They were coming through something more profound that was more painful too.
Désolée.
She says sorry.
Et je pense que lorsque Mohamed dit là, il revient sous une forme de protection. On travaille les scénarios, et lorsque nous sommes arrivés sur le moment, dans la quatrième étape,
and when they were working on the story,
à quel moment elles se mettent en route,
and they were at
le déclencheur,
the triggers, about the triggers.
Il y a quelque chose qui est arrivé pour Mohamed. Ça coincé.
Something happened for Mohamed. It was stuck.
C'est comme si d'un seul coup on descendait dans quelque chose qui jusqu'alors avait été empêché.
It was as if they were getting to something that was occulted or hidden.
Donc j'ai demandé à Mohamed quel âge il a.
So she asked what is his age.
16 ans.
16.
Qu'est-ce qui se passe pour vous à 16 ans?
And what happened to you when you were 16?
Et là, il se passe quelque chose. Une perte importante.
There was a big loss and big emotions. Then she could hold it, but now it's too strong.
Et il y a eu une compréhension très importante.
And there was an understanding that was very strong between them.
Bon, il y a eu un temps de silence entre nous. En fait, je pense que c'est bien. Il y a quelque chose qui est revenu, qui avait été.
Someone was coming back, and it was very important.
There's two things.
Deux choses.
First, you do not need to apologize for your emotions.
Première chose, c'est que tu ne dois pas être désolé pour tes émotions. T'as pas besoin d'être désolé pour tes émotions.
That, for me, was the most moving part of the course.
Pour lui, c'était le moment le plus touchant de la formation.
The second thing is, I think it would be good for us to sit down together, two or three of us, and have a talk through those.
La deuxième chose donc importante, c'était qu'il pensait que ce serait peut-être important qu'on prenne un temps pour s'asseoir, enfin pour vous asseoir à trois ou quatre.
And we shall do that tomorrow.
Et on fera ça demain.
If that's okay.
Si ça vous convient.
Okay, good. Yeah. Now we have coffee.
Vincent, vous êtes ici en tant qu'usager à ces journées de formation, travailler, vivre avec les voix. Quel est votre sentiment au terme de cette deuxième journée de formation ?
Dur, parce qu'on nous demande de fournir personnellement sur nos émotions, notre vécu, mais soulagé d'être compris par des gens qui sont un peu outre du système psychiatrique. Où on est moins catalogué, moins mis dans des cases. Je crois que c'est surtout ça qui nous soulage aussi.
De quel type de compréhension s'agit-il ?
La compréhension sur notre vécu, sur les ressentis qu'on a, sur les voix qu'on peut entendre, sur les façons qu'elles agissent sur nous. Donner des noms, c'est difficile. Enfin, je crois que chacun ça. C'est pratique pour essayer de cerner la voix qu'on a. C'est-à-dire que moi, ça m'a appris à connaître mes voix. C'est-à-dire que j'arrive à les cerner. C'est vrai, on peut les cataloguer plus facilement. Maintenant, c'est pas aussi précis qu'ils le disent dans leur exemple. J'ai pas d'âge précis. C'est pas relié à un âge précis, à un événement précis, à un âge précis de mon existence. Mais ça nous aide. C'est un schéma qui nous permet de faire une première approche, de travailler. Et de quand même cibler nos voix et de savoir un peu d'où elles viennent et pourquoi elles sont là. C'est-à-dire que en psychiatrie, on a tendance à nous dire dès qu'on entend des voix, occupez-vous l'esprit, écoutez de la musique, faites des activités manuelles, faites ceci, faites cela, qui n'ont aucune vertu pour calmer ces voix en fin de compte.
Là où ce dispositif-là, ou en tout cas cette approche, vous permet de non pas de les nier, mais de les entendre et de faire avec ces voix.
C'était une démarche personnelle, c'est-à-dire que de par ma propre expérience, c'est un peu le système de défense que je développais pour me protéger de ces voix, de les contrôler, d'apprendre leur interaction avec nos pensées et de mieux les gérer, de mieux les supporter.
Quelle est votre expérience ordinaire, vous ? Vous êtes dans quelle situation ?
Moi, je suis pour l'instant en arrêt de travail, enfin en invalidité. parce que justement ces voix sont trop envahissantes. Je me suis un peu écarté du milieu psychiatrique, dans le sens où je vois toujours un psychiatre de l'EPSM, mais j'essaye au maximum d'éviter le contact avec d'autres milieux, enfin dans le milieu psychiatrique, c'est d'avoir le plus d'autonomie possible, justement réaction à une incompréhension un peu du milieu où on veut absolument déjà nous bourrer de médicaments, ce qui pour moi n'a eu aucun effet sur mes voix. Le seul effet que ça a, c'est vrai que bon, ça peut traiter l'anxiété, mais ça nous donne un peu comme ça nous rend un peu des zombies. C'est-à-dire qu'on nous calme et on dort à moitié, on a des réactions, on attrape des tics avec les psychotropes. Enfin, c'est un peu bizarre. Donc, c'est vrai que j'essaye de m'éloigner de la psychiatrie pour plus subir tous ces effets négatifs qu'on nous impose un peu, quoi. J'avais déjà entendu parler des entendeurs de voix. J'en avais parlé avec d'autres psychiatres il y a quelques années de ça, qui étaient un peu réfractaires, honnêtement, à ce genre de technique parce qu'ils ont peur que les patients ne veulent plus prendre aucun traitement ou laissent tomber complètement l'encadrement dont on a quand même un certain besoin, il faut être honnête, pour des moments difficiles, des caps difficiles à passer. Mais celui-là, on a parlé lui-même, il m'a dit, écoutez, c'est comme les médicaments, les antipsychotiques, psychotiques, tout ça ne font aucun effet sur vous, peut-être voir une autre ouverture et pourquoi pas aller voir ces groupes d'entendeurs de voix. Pour avoir une nouvelle approche sur la question.
Qu'est-ce qui, selon vous, je fais appel à votre expérience, disons, qu'est-ce qui, selon vous, a changé dans le milieu psychiatrique pour que, précisément, ces groupes soient comme un appel d'air, une bouée d'oxygène ?
Ce qui a changé dans la psychiatrie, depuis 12 ans que je fréquente les services psychiatriques, sans compter quand j'avais 16-18 ans, où je les fréquentais un peu aussi, je crois que c'est la politique du chiffre. On n'a plus le temps de prendre du temps avec les patients. Tout est conditionné. Les temps d'écoute des patients est conditionné. C'est de telle heure à telle heure, c'est strict. Avant, il y avait plus d'écoute, plus de temps, plus d'échanges. En hôpital psychiatrique, dans les milieux fermés, les infirmiers étaient constamment avec nous. Que maintenant, bon. Ils nous conservent, ils nous gardent quelques créneaux. Vous nous prenez en entretien dans un bureau, c'est beaucoup plus formel. Il faut qu'on soit prêt à ce moment-là. Or, justement, quand on n'est pas bien, on n'est pas toujours apte à discuter à un moment précis. Alors qu'avant, ils savaient capter le moment parce qu'ils étaient avec nous. Donc, ils captaient le moment où on était là, où on était prêt à parler, où on était prêt à dire ce qu'on ressentait. Et où ils étaient prêts à intervenir aussi pour nous guider, pour nous aider dans l'évolution de notre comportement.
Merci à Yann de Robert. C'était Sur les Docs. Attaché d'émission, Christine Gage et Laure-Hélène Blanchet. Mixage, Pascal Bénard. Un documentaire d'Alexandre Breton et Guillaume Baldi.
Et les voix de la radio sont sur le site franceculture.com. Celles de Sur les Docs ne demandent qu'à être écoutées, voire podcastées. Demain à 17h, nous pénétrerons dans les chausse-trappes et charmes de l'échange épistolaire entre détenus et volontaires de l'association Courrier de Beauvais.